LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancred Ramonet, réalisée par Julie Béressi. Épisode 7, Amour libre ou coup de canif. Polyamour, amour libre, adultère et double vie. Le couple ne nous suffit pas. Et pourquoi nous suffirait-il ? Puisque nous ne cessons d'être confrontés à son caractère désuet. La fidélité ne serait qu'un concept puritain, destiné au maintien de l'ordre et au contrôle des corps. Nous ne voulons plus circonscrire nos sentiments au couple nucléaire, dans une société où s'ouvrent devant nous tous les champs des possibles. Et pourquoi pas ? Si l'amour au singulier n'est qu'un instrument de notre oppression, et plus particulièrement de l'oppression des femmes et d'une volonté de les enfermer dans le carcan du mariage, pourquoi ne pas faire tout valdinguer ?
Vous faites encore l'amour ?
Non, on ne fait plus l'amour. Enfin, très rarement, quoi.
Mais ouais. C'est normal que ce soit difficile, la sexualité, avec ce que vous vous imposez.
Attends, excuse-moi, est-ce qu'on s'impose ?
Bah, l'exclusivité.
Oui, bah, on a un couple, quoi. C'est...
Oui. Un couple. Mais, franchement, Victor, tu serais pas plus épanoui si tu pouvais faire l'amour avec d'autres femmes ?
T'en penses quoi, toi, du polyamour ? Parce que moi, je remarque quand même qu'autour de moi, les couples qui sont polyamoureux, il y en a toujours un des deux qui est plus polyamoureux que l'autre. T'as toujours un truc un peu dissymétrique. Alors sur le papier, moi je trouve ça fantastique, le polyamour, tu vois. On peut dire, je sais pas, que voilà, si on a plusieurs enfants, on les aime tous pareil, que notre cœur il est démultipliable à l'infini, mais je sais pas, moi il y a un truc qui va pas. Moi on me proposerait d'être en couple polyamoureux, mais je partirais loin, vraiment loin. Je prendrais mes jambes à mon cou, quoi. T'en penses quoi, toi ?
Ben non, j'en sais rien, mais tu dis ça parce que toi t'as déjà pu aimer d'amour.
Tancred Ramonet.
Plusieurs personnes en même temps ?
Non, j'ai jamais aimé plusieurs personnes en même
temps. Tu n'aimes qu'une personne ?
Bien sûr.
Ben moi aussi. Moi j'ai jamais aimé qu'une personne. J'ai, disons, qu'un objet de mon amour pendant un moment. Donc moi j'ai du mal à presque à y croire, en fait, à ce polyamour. Je serais curieux de voir comment ça fonctionne. Parce que, effectivement, on peut imaginer ce qu'avaient Sartre et Simone de Beauvoir, l'amour nécessaire, un peu central, puis les amours secondaires. Mais c'est une manière d'être dans un couple libre. En réalité, c'est pas vraiment du polyamour. Donc, qu'est-ce que c'est, ce polyamour ? Comment on peut aimer plusieurs personnes en même temps ? Je sais pas. J'ai aucune réponse là-dessus. J'arrive même pas à en imaginer un début d'expérience.
Moi, par exemple, je refuse d'être dans une relation monogame aujourd'hui. Ça me dessert.
Sabrina Erinjin, co-autrice de « Nos amours radicales, 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour ».
De toute façon, enfin voilà, les hommes ne sont pas prêts à révolutionner l'amour pour le moment. J'ai beau leur montrer la route, bon, ils préfèrent partir de l'autre côté. Donc, je ne vais pas être monogame. Je vais forcément me faire avoir. On va me demander un investissement, on va demander une charge mentale, on va me demander de faire la femme de ménage si je finis par habiter chez l'autre. Non, c'est pas possible, moi je perds à tous les coups. Il m'est arrivé des choses tellement ubuesques en couple, où on me demandait comment faire une machine à laver. J'étais genre, mais c'est-à-dire, tu sais pas laver ton linge ? Mais comment ça, tu sais pas laver ton linge ? Je me souviens avoir filmé un ex, je l'ai filmé tellement j'étais choquée, parce qu'il n'arrivait pas à mettre une housse de couette sur une couette. Je ne comprenais pas, parce que cette personne avait 28 ans à l'époque. Je me disais, mais... Ah, d'accord. Donc ouais, c'est... Tu perds à tous les coups. Alors, ça ne veut pas dire... Oui, ça ne veut pas dire que tous les hommes ne savent pas faire le ménage, bien évidemment, que ce n'est pas ça. Mais il y a une facilité à se reposer sur les femmes dans le couple qui fait qu'on est perdante. Ma vision de la révolution de l'amour, déjà, elle ne s'inscrit pas dans la monogamie.
Et est-ce que le polyamour, par exemple, c'est une solution ?
Ah bah, je pense qu'aujourd'hui, un peu quand même, ouais. Mais parce que c'est quelque chose à construire. Je crois que si ça faisait partie de nos schémas de vie et de notre culture, je ne pense pas qu'on verrait les choses de la même manière. Mais en même temps, pour que ça fasse partie de quelque chose d'envisageable, bah, il faut qu'on commence quelque part. Et qu'on offre aux autres une image de possible. Et ouais, on se casse la gueule hein, dans le polyamour, hein, faut pas croire, hein. C'est certain. Mais est-ce qu'on se casse plus la gueule que dans le couple à deux ? Est-ce que ça fait plus mal, moins mal ? Est-ce que la jalousie et ce besoin de posséder l'autre, c'est très sain ? Est-ce que finalement, on peut pas s'émanciper de ça aussi ? Et est-ce que c'est pas ça aimer, en fait ? d'accepter que l'autre soit aimé par d'autres personnes.
Supposons qu'ils se marient, disons à 20 ans ou quelques années plus tard, ce qui est généralement le cas puisque l'appétit sexuel est plus actif à cet âge. Les deux partenaires se trouveront trop et trop fréquemment en contact. Rapidement, ils ne savoureront plus la présence de l'autre. L'irritation commencera. Les petits détails mesquins de la vie commune amèneront le mépris. Ce qui était autrefois une joie exceptionnelle deviendra un automatisme et détruira toute finesse, toute délicatesse. Souvent, la cohabitation se transformera en une torture physique pour l'un des partenaires, le plus souvent la femme, tandis qu'elle procurera encore un peu de plaisir à l'autre, et ce pour une raison simple. Les corps, tout comme les âmes, évoluent rarement, voire jamais de façon parallèle.
Voltairine de Clare, Le mariage est une mauvaise action, 1907.
Il y a tout de même une chose importante que je voudrais savoir. Il y a tout de même une chose importante que je voudrais savoir.
Oh, fous-moi la paix.
Qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Rien. T'as été parfaite. Et moi, j'ai été un dégueulasse, dégueulasse comme tous les hommes. J'ai rien à te reprocher, mais je peux plus te voir devant moi. Je t'avais dit que je t'aimerais toujours. Ben, je me suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Je t'aime plus.
Glissant sous les ponts d'Amsterdam, sur un bateau mouche hollandais, nous les éclopés de la baie, nous les mamzelles, nous les madames.
Moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé dans L'une chante, l'autre pas, d'Agnès Varda. C'est la scène de la chanson des nanas avortées. Tu sais, quand elles sont toutes sur un bateau à Amsterdam et qu'elles y vont pour avorter. Moi, ça me fait penser à tous ces témoignages de femmes qui racontent que dans les années 70, où on prenait l'amour libre et tout ça, et où l'avortement n'était pas encore légal en France, où elles partaient toutes prendre le bus finalement pour Amsterdam, ben, ce bus, elles le prenaient seules. C'est-à-dire, les mecs, ils n'étaient pas là, tu vois, pour leur tenir la main à Amsterdam, ou alors ils étaient vraiment très rares. Et il arrive parfois, tu vois, je pense à certains textes que j'ai pu lire et à certains témoignages, il arrive qu'il y ait quand même pas mal de femmes qui ont vécu ces années-là et qui en reviennent quelque part en disant « bah oui, l'amour libre, il était libre, mais il était libre surtout pour les mecs qui en ont profité ». Est-ce qu'avant ça, il y a eu des expérimentations d'amour libre? Enfin, je sais pas.
C'est-à-dire, l'amour libre pour les hommes, il est sans conséquence. Pour les femmes, il pouvait avoir une conséquence à ce moment-là et une conséquence.
Qui est la grossesse, ouais, déjà, et bien voilà. Sûr. Mais aussi, je me demande vraiment jusqu'à quel point l'amour libre, c'est pas un truc qui a été créé pour satisfaire les mecs hétéros, en fin de compte.
Ben, en fait, l'amour libre, pensé comme tel, c'est une forme de libertinage. Et effectivement, c'était quand même globalement pensé par les mecs, pour les mecs. Et c'est pour ça que, si tu veux, tu devrais regarder un petit peu l'histoire des anarchistes à la fin du 19e siècle, les anarchistes individualistes, justement, ils ont essayé de penser l'amour libre, mais dans toutes ses conséquences. C'est-à-dire que déjà à l'époque, ils parlent de contraception, ils parlent d'avortement, et ils essaient de voir ce qu'est un amour libre qui serait pas un amour, justement, de consommation, d'empilement des corps, mais d'essayer d'imaginer une forme d'amour révolutionnaire, qui pourrait être révolutionnaire, et comment? À cette échelle-là, en repensant l'amour, eh ben, en fait, ils font aussi la révolution, puisque les anarchistes, ils veulent faire à tous les endroits où ils interviennent des révolutions.
Des amis sont venus prendre un verre, une heure, et nous avons fait l'amour à plusieurs.
D'un point de vue anarchiste, l'amour libre, c'est une union libre, c'est-à-dire consenti, entre au minimum deux individus.
Cécilia Varela, professeure d'histoire-géographie, autrice de « Au-delà des normes, l'amour libre et la famille anti-autoritaire ».
C'est ça le principe de base de l'amour libre. Cet amour libre, il peut se faire sur la base de vrais sentiments amoureux, tout comme il peut se faire sur la base d'un rapport sexuel. Parce que les anarchistes distinguent fortement le sentiment amoureux du désir sexuel. Et ça, c'est un petit peu une des nouveautés hein, chez eux par rapport aux autres courants socialistes de l'époque. Et ça se diffuse particulièrement entre les années 1900 et les années 20.
Qu'est-ce que c'est le mariage à l'époque, à ce moment-là? Qu'est-ce que ça représente et quelle est la place des femmes là-dedans? Alors, justement, l'amour libre est vu comme l'opposé du mariage. Et le mariage est ce qui encadre tout type, en fait, de relations à cette époque-là, au 19e siècle, puisque le 19e siècle est une société qui est très conservatrice. Et surtout, à l'égard des femmes, c'est une période très, très dure, hein, une période même de retour en arrière, hein, sur certains points. Et il y a aussi beaucoup cette diffusion de l'image de la loi blanche pour la femme mariée qui ne connaît rien aux rapports sentimentaux et sexuels et qui du coup se retrouve dans ce contrat-là sans avoir du tout consenti. Donc il y a vraiment des écrits anarchistes qui développent le mariage comme une prostitution, qui développent beaucoup le traumatisme de la première fois. Aussi, évidemment, qui compare ça à un viol. Donc c'est pour ça que pour eux, l'amour libre est une nouvelle forme de rapport, hein, qui n'est pas encadrée par l'État, qui n'est pas encadrée juridiquement et qui permet en fait de s'échapper du carcan social qu'est le mariage.
Est-ce que la famille, c'est une sorte de micro-État à abolir finalement ?
Oui. Oui, oui, évidemment, puisque l'anarchisme, en soi, on peut le définir comme une opposition à toute forme d'autorité. Et parmi en fait cette autorité, il y a évidemment la famille, au même titre que le capital, au même titre que la religion. Et c'est pour ça qu'il s'oppose au mariage. Et l'amour libre vient s'opposer à la famille autoritaire. Et dans les expérimentations de milieux libres, de nombreuses naissances ont eu lieu, bien évidemment. Et tous les membres du milieu libre participent à l'éducation de l'enfant.
Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque pour une femme de refuser ou contrôler sa maternité dans un contexte nataliste ?
C'est compliqué parce que c'est en soi non légal. Les anarchistes, et notamment que ce soit les hommes ou les femmes, ont été des pionniers dans cette promotion du contrôle des naissances et commencent à émerger à partir de la fin du 19e siècle des idées néo-malthusiennes, donc inspirées de Malthus. Et dans ce cadre-là, des moyens de contraception sont diffusés au sein de la société, donc notamment déjà en fait les préservatifs. Et il y a aussi une volonté de légaliser l'avortement aussi chez les anarchistes.
Les anarchistes individualistes, au final, ils étaient assez peu nombreux. Qu'est-ce qui fait que l'histoire se souvient d'eux ?
Si les anarchistes individualistes, aujourd'hui, on en parle beaucoup, notamment ces dernières décennies, c'est parce que leurs écrits sont relativement modernes. On fait encore référence aujourd'hui à l'amour libre, lorsqu'on parle par exemple de polyamour. Comme les anarchistes individualistes ont fait de la sphère privée, un lieu politique, eh bien forcément, ce sont des problématiques qui nous intéressent aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça qu'on parle beaucoup des anarchistes individualistes aujourd'hui.
Qu'est-ce qui reste des théories anarchistes sur l'amour libre aujourd'hui, en 2022 ? Est-ce que ce qu'on appelle le polyamour, ça a pris le relais finalement ou pas ? Ou c'est encore autre chose ?
Je pense qu'il y a de nombreuses proximités idéologiques entre l'amour libre et le polyamour. Déjà parce que le polyamour s'oppose aussi à tout le carcan social, juridique, autour du couple. Et on va dire que les anarchistes, eux, se focalisaient sur le mariage. L'amour libre, c'est la même chose, mais là, face au couple. C'est une autre façon de concevoir les rapports humains, c'est une façon de sortir du couple.
Est-ce qu'il y a un risque de récupération de finalement cet amour libre 2022, dans le sens où il pourrait être un nouveau lieu d'inégalité entre les genres, comme un peu dans les années 70, où beaucoup d'hommes ont profité de l'amour libre, et où beaucoup de femmes aussi d'ailleurs, mais d'autres ont été les grandes perdantes de la situation ?
Sûrement, tout comme il y a eu au 19e siècle et surtout début 20e. Si on prend Madeleine Vernet, qui était une des plus ardentes défenseuses de la théorie de l'amour libre, elle est revenue un petit peu sur ses propos en dénonçant le comportement des camarades anarchistes qui finalement, sous couvert d'émancipation des femmes, sous couvert d'émancipation sexuelle, bien en profitaient pour assouvir leurs propres désirs. Et on peut le retrouver dans certains témoignages, même dans certaines affaires en fait médiatiques qui émergent aujourd'hui. Où on voit que finalement, ce sont majoritairement le corps des femmes qui circulent dans le cadre de l'amour libre et moins celui des hommes.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
On réfléchit sur soi-même, sur son rapport aux autres, sur son rapport à son corps aussi, sur son rapport à sa sexualité, son rapport à la sexualité de l'autre.
La femme des uns, sous le corps des autres, a des soupirs de volupté. On s'en fout quand c'est pas la nôtre, mais celle des autres.
Oui, bon, sur le papier, moi, l'amour libre, j'adhère complètement. Je dirais même que j'applaudis des deux mains. En théorie, tout ce qui peut nous hisser vers l'émancipation, ça me tente plutôt. Enfin, en théorie. Parce que concernant la mise en pratique, ben, je passe mon tour, hein, très peu pour moi.
On regarde en bas, et qu'est-ce qu'on y voit ? La femme des uns, sous le corps des autres. Et on commence à s'inquiéter.
Pourquoi est-ce que l'infidélité, ça fait toujours aussi mal ? C'était la
nôtre. Alors, l'infidélité réactive violemment le sentiment d'insécurité.
Damien Mascré, médecin sexologue.
C'est vrai qu'il y a, depuis la fin des années 50, les fameuses théories de l'attachement qui ont été posées par Bowlby, qui font qu'on a besoin de se sentir en sécurité avec son partenaire pour pouvoir aller de l'avant, pouvoir faire des choses. Et c'est ce qu'avait observé Bowlby avec les parents et les enfants. Et la théorie a été effectivement que les personnes qui ont grandi dans un climat insécure, eux-mêmes peuvent chercher dans leur couple une sécurité, ont besoin sans arrêt de se rassurer par rapport à l'état de leur relation avec l'autre, qui fait que c'est particulièrement douloureux lorsqu'ils sont trahis. Mais on sait aussi que le pire dans l'infidélité, ça n'est pas tant d'ailleurs d'avoir été trompé, c'est de savoir qu'on ne pourra plus faire confiance à l'autre, parce que la personne qui a failli, si on peut dire, doit regagner pas à pas, millimètre par millimètre, une confiance qui est complètement disparue. Donc les deux vont avoir un cheminement différent, mais avec un objectif commun qui est de se redonner une chance de se faire confiance.
Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi.
Mais viens, arrête, tu sais, ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assume, vie, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis
non,
sûr.
Mais tu sais pas, toi, ça fait deux mois que je sens son odeur.
Quoi ?
Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure.
Mais non.
J'ai infiltré son répondeur, mon mec se tape une autre femme, ouais.
Est-ce que de ce que vous avez pu en observer, hommes et femmes, dans les relations hétéros, entament des relations extra-conjugales pour des raisons différentes ?
Les femmes et les hommes recherchent un ailleurs ou recherchent de l'amour ou une relation qui les transporte, qui les sort, entre guillemets, de leur vie ordinaire, quotidienne, de couple et autres.
Marie-Carmen Garcia, professeure de sociologie à l'université Claude Bernard Lyon 1.
C'est au fil des mois, en fait, que les différences se font jour.
Et donc, quelles sont-elles, ces différences ?
Alors, la différence majeure, en fait, hein, c'est que les femmes, au bout d'un moment, souhaitent engager une relation stable, en fait, avec l'homme caché. Et donc, si elles sont célibataires, eh bien, que lui quitte sa conjointe. Et si elles sont elles-mêmes en couple, que les deux quittent conjoint et conjointe. Et c'est là, en fait, où les différences se font. C'est-à-dire que les hommes, eux, ne quittent pas l'épouse ou la conjointe. Et c'est là où les tensions commencent, en général, et peuvent perdurer tout au long de la relation. Jusqu'à éventuellement, alors, soit il y a une séparation au bout de plusieurs années en général, et ça vient souvent de la femme qui finalement finit par comprendre que le couple stable n'aura pas lieu. Soit il y a une adaptation en fait des femmes à la double vie, c'est-à-dire qu'ils vont accepter que l'homme qu'elles aiment soit avec une autre femme. Et souvent en mettant des conditions. Souvent, une des conditions assez explicites du côté des femmes, c'est que l'homme n'ait pas de relation sexuelle avec sa conjointe. D'ailleurs, ce qui diffère, d'une manière générale, à la différence que les hommes ont des relations sexuelles avec leur conjointe. Alors, pas souvent aussi satisfaisantes qu'ils le souhaiteraient, mais ça continue. Donc là, il y a un double jeu qui se met en place, et puis aussi sur la fidélité sentimentale et amoureuse, c'est-à-dire que les femmes souhaitent que l'homme n'aime pas, au sens amoureux, sa conjointe. Et quand ça se poursuit avec ces règles-là, en fait, hein, mais qui sont pas forcément suivies par les hommes, hein, cela dit, puisqu'on est dans l'ordre du privé, de toute façon. Donc, une fois qu'ils sont chez eux, de toute façon, ils mènent leur vie conjugale, entre guillemets, comme ils peuvent ou comme ils l'entendent.
De quoi tu joues ? Tu es complètement inconsciente ! Putain ! Écoute, je sais pas ce qui t'a pris, mais maintenant, s'il te plaît, on va essayer de limiter les dégâts. Je te demande une chose, je te la demande à genoux. Ne viens pas avec nous demain. Tu comprends ce que je te dis ?
Je suis tellement contente de te voir.
S'il te plaît, ne viens pas. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas. D'accord ? À moi, ça m'est égal. Je te parle pas de moi, là. Moi, tu peux tout me faire, mais Alice... Putain, Alice, elle y est pour rien. Elle mérite pas. C'est de la folie.
Est-ce qu'il existe un malentendu entre donc ces maîtresses qui sont en attente d'un statut plus valorisant, donc de devenir les officielles, et les hommes mariés, dans la mesure où il y aurait encore un double standard, c'est-à-dire d'un côté bon les mères et les putains, et où les hommes attendraient donc de leur maîtresse une disponibilité sexuelle, là où elles, en retour, attendraient de l'amour ou un quasi-couple, donc passer du temps, partir en week-end, quelque chose qui se rapprocherait quand même de la relation amoureuse et du couple.
Tout à fait. Socialement, ça se comprend, hein, qu'elle cherche un statut, comme vous l'avez dit, plus valorisant, parce que le statut, entre guillemets, si on peut parler de statut de maîtresse ou d'amante, est dévalorisé socialement, et il est d'autant plus dévalorisé qu'aujourd'hui, le divorce est normalisé. Donc, on n'est plus dans les années 60 jusqu'aux années 70, où, bon, il était compliqué de se séparer, etc. Donc elle, bah oui, il y a un malentendu parce qu'elles comprennent pas, dans la plupart des cas, pourquoi il ne franchit pas ce cap-là de la séparation avec la conjointe pour créer un couple avec elle. Et de l'autre côté, bah, le malentendu, il est sur le fait que les hommes, eux, ne comprennent pas, et c'est très sérieux, c'est pas de la mauvaise foi de leur part, ne comprennent pas que des femmes souhaitent faire couple, en fait, puisque eux ont souvent une image beaucoup moins enchantée du couple que les femmes. On va rester sur ce qui peut sembler des stéréotypes, mais qui est quand même très présent, c'est que les femmes recherchent un amour de type romantique, donc monogame, avec de l'amour, de la sexualité, etc. Et les hommes, ça leur pose pas de... Enfin, voilà, dans ces hommes-là, en tout cas, de problèmes majeurs, ou même pas tellement de problèmes moraux que d'avoir deux femmes dans leur vie, voire parfois plus, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des maîtresses ponctuelles au cours de la relation. Donc, oui, on a un double standard et des attentes radicalement différentes. Et là, il y a quelque chose que j'ai vu assez tardivement dans mes travaux, c'est que souvent les femmes reprochaient la lâcheté aux hommes qui ne quittent pas, parce qu'ils disaient il quitte pas sa femme parce qu'il est lâche, etc. Alors que, en réalité, de l'autre côté, du côté masculin, c'est plutôt une preuve de courage que de rester dans une famille, en tant que chef de famille, parce qu'il y a des enfants aussi hein, dans le couple conjugal, de rester malgré les difficultés. Ça, c'est vécu de manière positive par les hommes et c'est perçu de manière négative par les femmes. Moi, je me souviens d'un interviewé qui me disait « Moi, je ne suis pas infidèle puisque je remplis mon rôle de père et de mari. » C'est-à-dire qu'il pourvoyait aux besoins de la famille, qu'il était là en cas de problème, etc. Donc, pour eux, enfin, je généralise bien sûr, mais pour eux, le fait d'avoir une relation sentimentale et sexuelle par ailleurs n'entache en rien, ou très peu, le fait qu'ils tiennent le rôle en fait de chef de famille.
Sans compter qu'ils tiennent plutôt des discours respectueux vis-à-vis, alors pas auprès de leur maîtresse j'imagine, mais vis-à-vis de leur femme, de leur épouse.
Tout à fait. De façon très très récurrente, l'épouse est perçue comme une personne extrêmement vertueuse, qui n'aime pas le sexe. Et là où ils maintiennent beaucoup le cap, c'est sur le fait que c'est une bonne mère. Et justement, dans les représentations de la famille traditionnelle, eh bien le rôle de mère est tenu par l'épouse et ça, ils le valorisent énormément.
Prends-moi, me prends. Prends-moi, me prends pas.
Ça me fait penser à ces mecs mariés qui me disaient très naturellement et sans respect pour moi d'ailleurs que avec la mère de ses enfants, ils pouvaient pas faire tout ce qu'ils faisaient avec moi. Donc finalement, il leur faut toujours une salope, la putain, hein, avec qui ils se lâchent un peu. Et puis, ils n'ont aucun problème à être cruels et à te balancer ça après avoir fait leur petite affaire. Ils avouent absolument sans remords et avec grande cruauté que finalement, faire ce qu'ils font avec leur maîtresse, ben, ce serait dégrader leur femme. Ils n'ont aucun problème à te dégrader toi et à te considérer comme objet sexuel, mais ils n'envisagent pas de le faire avec leur épouse, mère des enfants. Ils ont trop de respect pour elle.
Prends-moi, me prends pas, prends-moi, me prends pas. Je suis comme la bête, je n'aime que toi. Prends-moi, me prends pas.
Est-ce qu'on peut dire que globalement, les hommes mariés donc ne quittent pas leur femme pour leur maîtresse, là où au contraire, les femmes mariées vont avoir tendance soit à dégager leur amant très vite, soit à faire littéralement imploser leur couple au profit du nouvel amour?
Tout à fait. Quand je fais les interviews avec ces hommes-là, à un moment ou à un autre, ils m'expliquent, mais si je m'installais avec ma maîtresse, au bout d'un moment, on retomberait dans les mêmes travers que ceux que j'ai connus déjà dans mon couple installé. Donc, ça ne vaut pas la peine. Alors que les femmes, elles sont sur ces femmes-là, elles sont sur des représentations romantiques, c'est-à-dire que elles associent le couple à l'amour et à la sexualité. Tout doit aller ensemble. Donc, effectivement, moi, j'ai eu pas mal de cas de figure où des femmes mariées finissent par quitter leur mari parce que c'est intenable pour elles de tromper. De mentir, de tromper, etc. Et elles veulent être dans une situation claire et être complètement aussi dévouées. Alors à ce moment-là, ça devient encore plus compliqué, hein, la relation extra-conjugale, parce qu'il y en a une qui devient libre et qui a tout quitté, en tout cas qui a quitté son foyer et son mari pour un amant, et l'amant, lui, continue avec son épouse.
Vous parliez tout à l'heure des sacrifices que les maîtresses étaient prêtes à faire. Qu'est-ce qui fait que, à l'inverse, quand une femme mariée prend un amant qui, lui, est célibataire, il attend moins longtemps, finalement, avant de partir. Qu'est-ce qui fait que les hommes sont moins patients quand ils se retrouvent dans cette situation?
Alors, j'ai eu peu de cas comme ça. Ils sont assez difficiles à trouver sur la durée, je dois dire. Et pourtant, j'ai bien cherché. Et bon, j'en ai quand même trouvé quelques-uns. Alors, ils sont moins patients. En fait, ils ont d'autres relations. Ils donnent pas le monopole, en fait, à la femme mariée. C'est là où ils sont un peu plus, si je peux m'exprimer ainsi, un peu plus malins que les femmes mariées qui donnent tout à l'homme qu'elles aiment. Moi, j'ai eu un cas de figure de une dizaine d'années. Mais parallèlement à la femme mariée, ils fréquentaient d'autres femmes, ponctuellement, notamment pendant les vacances. Parce que l'histoire des vacances, c'est quand même un moment clé dans les relations extra-conjugales, puisque c'est le moment où les amants ne se voient pas plus et peuvent difficilement entrer en contact. Les femmes maîtresses d'hommes mariés vivent ça très très mal. En revanche, les hommes qui seraient dans la même situation, eux, vont fréquenter d'autres femmes durant ces périodes-là, dans les périodes où ils ont plus la femme mariée qui est disponible.
Vous dites, les jardins secrets ne sont pas de charmants endroits où l'on s'aime en cachette. Est-ce que, est-ce que les femmes continuent à se faire avoir, finalement?
Moi, je vous réponds radicalement oui. Voilà.
Que ferais-je de vous, mon homme objet? Que ferais-je de tout ce beau palais? De grands muscles si doux et si parfaits. Que ferais-je de vous, mon homme objet?
C'était Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Amour libre et coup de canif. Avec Cécilia Varela, Damien Mascré, Marie-Carmen Garcia et Sabrina Eringi.
Garderai-je coucher à mes pieds pour vous frôler du bout de mon soulier? Couperai-je vos joues de mon stylet pour connaître le goût de vos attraits? Vous placerai-je tout le jour d'après dans la serre où pour vous les fleurs mourraient?
Et tout de suite, un nouvel épisode de Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Depuis MeToo, nous errons sur le champ de ruines des rapports de couple et nous ne savons plus comment nous aimer. Pour de plus en plus de femmes hétérosexuelles, faire couple avec celui que nous envisageons comme un potentiel oppresseur, à savoir l'homme cisgenre, nécessite une véritable gymnastique mentale. Nous sommes tiraillés entre nos désirs et nos convictions. Est-il envisageable d'imaginer un érotisme égalitaire affranchi de toute structure patriarcale? Puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Ce patriarcat qui serait responsable de nos échecs relationnels, dans un monde où l'infériorité des femmes est encapsulée dans notre imaginaire amoureux. Mais sortir de l'hétérosexualité, est-ce vraiment suffisant? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Une série documentaire d'Ovidi avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressy.
Épisode 8, révolutionner l'amour. Est-ce que notre imaginaire amoureux en tant que femme y repose sur des enjeux de soumission et de domination ?
Oui, alors j'aurais envie d'enlever le « en tant que femme » parce que en réalité, je pense que...
Manon Garcia, philosophe, autrice de « La conversation des sexes, philosophie du consentement ».
Pour les hommes comme pour les femmes, l'amour est très lié à des questions de domination et de soumission parce que on pense d'abord l'amour comme amour hétérosexuel. Et donc, l'amour est l'endroit où la différence des sexes se vit le plus intensément, de la manière la plus heureuse, et puis en réalité, je crois aussi, de la manière la plus malheureuse. Et par conséquent, les normes sociales de genre, donc la féminité, la masculinité, sont en jeu de manière très directe et parfois très violente dans l'amour. Et moi, ma thèse, c'est que ce qu'on appelle la féminité est en fait une norme de soumission. Et réinventer l'amour, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts.
Alors comment est-ce qu'on peut le révolutionner, cet amour ? Si c'est possible de rêver d'un amour qui soit émancipé.
C'est ça. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression d'être tue l'amour, justement, avec mon pessimisme. Mais évidemment, moi aussi, je veux révolutionner l'amour. Mais oui, je veux bien dire aux femmes, pour révolutionner l'amour, il faut arrêter de se sentir particulièrement bien quand on repasse les chemises de son mari et tout ça. Mais je pense que les normes de genre, elles sont rudes. Et surtout, je suis de plus en plus en colère qu'on passe tant de temps à se demander comment réinventer l'amour quand les hommes en passent si peu. Et que je crois quand même que l'obstacle principal à un amour joyeux, égalitaire, créatif, etc., ce sont les hommes. Donc nous, on peut bien faire des retraites de yoga, lâcher prise, respirer par le ventre, faire des régimes, etc. Je veux dire, si les hommes ne prennent pas au sérieux la façon dont leur pensée de l'amour est une aliénation pour les femmes, on ne va pas s'en sortir, quoi.
Bah, d'un autre côté, ils n'ont pas vraiment intérêt à se remettre en question à ce niveau-là.
Ben, je pense qu'ils ont intérêt, en fait, sur le coup de l'amour, je pense qu'ils ont vraiment intérêt. Parce que je pense que, pour le coup, les normes de soumission dans l'amour, elles sont très pesantes pour les hommes. Et que je pense qu'au fond, les hommes, ça ne les amuse pas tellement de rentrer chez eux et que certes le ménage soit fait et tout, mais qu'on leur dise « tu te rends compte, moi qui suis là et je t'aime et tu préfères aller regarder le foot avec tes copains ou tu préfères aller boire des coups alors que moi je suis là et je t'attends ». Franchement, c'est pas très excitant. On sait bien que de supplier l'autre de donner du sens à notre vie, c'est pas très excitant pour l'autre non plus. Et après, évidemment, on se sent très important quand quelqu'un nous dit « tu es le sens de ma vie ». Mais je crois quand même que les hommes, ils préfèrent que l'amour ne soit pas un fardeau pour eux. Je pense que bon, les hommes, ça les amuse 5 minutes, cette dévotion, et qu'à la limite, à ce moment-là, il vaut mieux avoir un chien. C'est plus fidèle et surtout ça n'a pas d'angoisse existentielle qui vous dit « je viens à ta rencontre tous les soirs quand tu rentres à la maison et toi, tu préfères voir d'autres chiens que moi ». Voilà, donc c'est... Mais si on pense qu'on veut plus qu'un chien et une femme de ménage combinés, eh ben on a intérêt à l'égalité. Alors que je pense que dans plein d'autres domaines, les hommes n'ont pas intérêt à l'égalité parce que ça veut dire se partager le gâteau avec plus de monde, etc. Mais dans l'amour, c'est tellement plus exaltant d'être aimé par quelqu'un qui a le choix de nous aimer.
Fille ou garçon ?
Mais si réinventer l'hétérosexualité, c'est si galère, est-ce qu'on ferait pas mieux de la déserter ? Ou, à minima, de la fuir momentanément ? «
Alors, quand on parle de bisexualité, on a en tête souvent des images érotiques de la pop culture, voire des images qui viennent directement du porno. On associe ça uniquement au divertissement sexuel et quasi jamais à la relation amoureuse. Pour dire qu'on est engagé dans une relation affective ou amoureuse sérieuse avec une femme, on dit rarement « je suis bisexuel ». D'ailleurs, les jeunes ne disent pas « bisexuel » mais « pansexuel ». Est-ce qu'il y a encore cette idée qu'une relation entre deux femmes qui ont ou ont eu des relations hétéros, c'est pas sérieux, ça reste que du divertissement sexuel?
Bien sûr, il y a cette idée qu'une relation entretenue entre deux femmes n'est pas sérieuse, que c'est juste un petit frisson passager, une petite fantaisie qu'on se permet à un moment de la vie avant de retourner sagement vers les hommes.
Mathilde Ramadier, autrice de Vivre fluide.
C'est un cliché qui est vieux comme le monde, quasiment, puisque longtemps, les hommes ont tenté d'étouffer le désir féminin. Et aussi, effectivement, il a été surinvesti du côté érotique et l'image de la bisexualité a été glorifiée par la pop culture et par la pornographie. C'est quelque chose dont on essaie de se débarrasser ou du moins dont on essaie de s'émanciper.
C'est vrai que finalement, dans l'histoire de la littérature, on a quand même très peu d'histoires d'amour entre femmes. Dans le cinéma, plus, mais dans la littérature, finalement, très peu.
Il a fallu passer un certain nombre d'étapes pour ces femmes qui ont réussi à parler de ces histoires d'amour dans leurs écrits. Et quand on pense notamment à Colette, qui a en quelque sorte un peu donné aussi le coup d'envoi, Colette était tout de même très contrôlée par le regard masculin, et en l'occurrence par le regard de son mari, qui signait ses livres à sa place, et puis qui relisait tous ses manuscrits, et qui avait une forte emprise sur elle. Et donc là, même Colette, quand elle raconte, en tout cas dans la série des Claudines, une relation entre deux femmes, celle-ci est extrêmement contrôlée par le regard masculin, qui conserve même les clés de la chambre où les femmes se rencontrent, où Claudine rencontre Rézi, sous l'œil attentif et très intéressé de Renaud, qui n'est autre que le mari de Colette, Willy. Elle n'a fait que changer les prénoms.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée que la bisexualité féminine, elle n'est acceptable que lorsqu'elle est sexuellement intéressante pour les hommes?
Oui, en effet, cette bisexualité féminine est valorisée à partir du moment où les hommes peuvent participer, que ce soit une simple participation symbolique du regard, par exemple quand on regarde un film, ou que ce soit une participation active dans le cas d'un trio sexuel. Et là, on en revient à ce que la philosophe Monique Wittig nommait le fantasme du harem lesbien, qui est, je crois, avant tout un fantasme d'une multiplicité de partenaires, puisque un homme, en cela, en participant de près ou de loin à cet amour entre femmes, va pouvoir jouir d'une multiplicité de partenaires féminins. Et en effet, c'est une vision de la bisexualité qui est devenue dominante puisqu'elle a été encouragée et valorisée. Et en même temps, c'est aussi par effet boomerang, c'est un fantasme, un stéréotype d'invisibilisation. Elles vont avoir peur de vivre cette attirance, de peur de passer pour des femmes plus superficielles qui vont faire ça pour attirer l'attention des hommes.
J'ai l'impression que ce terme bisexuel, il faut vraiment se l'approprier, voire se le réapproprier. Quand on dit « je suis bisexuel », tout de suite... on se retrouve entouré d'une espèce d'aura érotique comme ça, ou de femmes avec des mœurs légères, en fait, de femmes à la cuisse légère. Et pour revenir sur Monique Wittig, puisque vous la citez, est-ce qu'il faut s'émanciper de la pensée straight et donc du contrat hétérosexuel pour enfin s'aimer en liberté? Est-ce que finalement l'amour, il n'est possible que en s'affranchissant du contrat hétérosexuel si on veut s'aimer en dehors du patriarcat, ou si on veut s'aimer librement, tout simplement?
Absolument, je pense qu'il faut s'émanciper de cette hégémonie hétérosexuelle, même si l'on est soi-même hétérosexuel, même si on se sent comme tel, même si on se revendique comme tel. C'est là que je trouve que les femmes bisexuelles sont en quelque sorte des fugueuses, et elles sont doublement fugitives, pour reprendre aussi une image de Monique Wittig, c'est-à-dire que dans un premier temps, elles s'émancipent de la pensée straight, elles s'émancipent du carcan de l'hétéronormativité dans lequel elles ne se reconnaissent pas, dans lequel elles étouffent, elles fuguent, et puis de l'autre côté, elles refusent, une fois arrivées sur l'autre rivage, de s'intégrer à une autre norme, à une autre monosexualité, en l'occurrence, qui est le lesbianisme, dans lequel elles ne se reconnaissent pas non plus. Et pour en revenir à ce terme de bisexualité, alors moi non plus je ne l'aime pas. Moi je préfère parler de fluidité, un terme qui est emprunté aux études de genre en ce qui concerne d'abord l'identité de genre, mais pour dire aussi aussi que c'est un terme, le terme de fluide, qui peut englober beaucoup plus tout ce continuum de sexualité qui existe entre hétéro d'un côté et homo de l'autre, et puis cesser de penser en effet l'amour ou une attirance, une attraction en termes de sexualité pure.
On brûlera toutes les dés en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange. Et je veux partir avec toi.
Lesbiennes radicales et lesbiennes politiques, elles mettent bien en avant que le lesbianisme, c'est pas seulement une orientation sexuelle.
Christelle Tarot, historienne.
Que c'est un projet de vie, un projet humain, un projet d'interrelation qui est très différent en fait de ce qui, dans le même temps, se constitue dans le milieu gay. Et là, je pense que la question du genre impacte de manière très importante en fait la manière dont le lesbianisme politique se pense. Et quand on lit par exemple quelqu'un comme Adrienne Rich, on se rend compte que quand Adrienne Rich parle du lesbianisme politique, elle parle très peu de sexualité, en fait. Elle parle d'un projet relationnel. Et le lesbianisme politique, ça constitue beaucoup plus des sororités, c'est-à-dire des réseaux d'entraide, des réseaux de compétences, d'expertise, finalement, que des questions sexuelles. Et là encore, en fait, le lesbianisme politique étant très peu étudié, de manière générale, très peu valorisé. Quand on parle des, entre guillemets, minorités sexuelles, et encore faudrait-il s'entendre là-dessus, parce qu'en fait, dans les études sur la sexualité, tu te rends compte que, étonnamment, il y a beaucoup plus de gens qui sont, lorsqu'ils sont engagés dans une sexualité active, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui sont finalement entre les deux. En particulier, les études sur la sexualité gay montrent que, sur les lieux de drague gay, il y a beaucoup d'hommes qui se définissent comme hétéros. Mais beaucoup. Donc, ça montre que ces catégories, en fait, sont très insatisfaisantes pour vraiment donner une idée du panorama dans lequel les vrais êtres humains interagissent vraiment, en fait.
Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi. Traversez-moi, la belle affaire. Embrassez-vous sur moi.
Est-ce que pour s'aimer dans l'égalité, il faut s'affranchir de la stricte hétérosexualité? Est-ce que finalement, c'est la seule solution?
C'en est une parmi d'autres. Et je pense en effet que ça peut être un levier d'émancipation. Et qu'en tout cas, c'est jamais une mauvaise idée d'interroger le rapport hétérosexuel à l'autre dans sa globalité, même quand on est soi-même dans un couple hétérosexuel. Et c'est quelque chose qui peut être même très libérateur pour les hommes, dont on suppose pourtant qu'ils sortent gagnants de ce rapport de force.
Et en quoi est-ce que cette hétéronormativité, parfois, elle flingue nos histoires d'amour?
Elle flingue nos histoires d'amour parce qu'elle nous enferme dans des rôles préétablis, elle nous bloque dans des scripts sexuels prédéfinis, dans des rapports de séduction qu'on a déjà vus mille fois dans la littérature, au cinéma, comme si on assistait finalement à notre propre vie en tant que spectateur d'une pièce de théâtre dont on connaît déjà le dénouement.
Se dire qu'il suffirait de sortir de l'hétérosexualité pour résoudre le problème. Mais peut-on prétendre construire un amour égalitaire alors que nous vivons dans une société qui crée de l'inégalité? L'égalité amoureuse est-elle possible sans égalité sociale?
Ah non, mais moi, de manière générale, je pense que dans les couples non hétérosexuels, ce codage de l'amour comme relation d'un dominant et d'un soumis ou d'une soumise est aussi là, puisque justement c'est la façon dont l'amour nous est présenté comme forme sociale de relation entre des êtres humains.
Donc il ne suffit pas de rompre avec le contrat hétérosexuel pour espérer vivre un amour émancipé.
Je pense que toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont d'abord des questions sociales et politiques, et que par conséquent, la possibilité d'une émancipation, d'une libération individuelle, elle n'est pas là. Au mieux, on peut arranger un peu les choses dans notre vie personnelle, mais le vrai impact qu'on puisse avoir au niveau individuel sur ces questions-là, c'est quand on fait du militantisme. Mais dans la vie amoureuse de deux personnes, qu'une personne essaye de se libérer par l'amour, c'est quand même mal barré, parce que ça veut dire que cette personne n'a pas compris que c'était pas intime, mais que c'était politique. Ou que l'intime était politique. Enfin, c'est ça que je veux dire, quoi. Mais c'est que c'est une illusion de penser que l'intime peut être non politique.
Évidemment, il y a une petite musique, pour ma part je n'apprécie guère, qui serait que dans les années 60, 70, il y a eu une libération sexuelle, mais elle n'aurait profité qu'aux hommes et les pauvres femmes n'auraient été que des proies.
Anne Steiner, maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Paris 10.
C'est pas du tout l'idée que j'en ai pour avoir vécu cette époque, vu mon grand âge, et la liberté sexuelle, elle a profité aux deux, voilà.
Pourtant, il y en a certaines qui en sont revenues, un peu.
Oui, mais bon, de là à se présenter comme des victimes de la libération sexuelle, c'est un peu fort de café.
Alors, en quoi elle a été bénéfique pour les deux?
Parce qu'avant, c'était... Avant, il y avait un interdit qui pesait sur la sexualité hors mariage et avant le mariage. Bon, même s'il y avait des tolérances, on pouvait pas mener la vie qu'on voulait mener. Donc, ça a quand même ouvert des possibles. Dans ce domaine, voilà, tout a été à peu près possible. Puis après, il y a eu effectivement l'acceptation de l'homosexualité, ça, qui commence justement. La lutte pour l'acceptation de l'homosexualité, pas seulement dans la loi, mais dans les mœurs, elle commence, comme vous le savez, à la fin des années 60, mais elle devient victorieuse dans les années 1980. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, à mon sens. Il faut quand même des fois voir un peu ce qu'on a gagné et pas voir toujours ce qu'on n'a pas gagné et qu'on pourrait gagner. C'est énorme ce qui a été gagné.
Je reviens quand même sur le polyamour aujourd'hui, qui est quand même très présent. Dans les discussions chez la nouvelle génération, ce qu'on appelle la Gen Z, ou même la génération Y déjà. Mais il y a 20 ans, même en mouvement militant, pour avoir été militant dans ces mouvements-là dans les années 90, dans les mouvements anarchistes, on ne parlait pas de polyamour. C'était complètement en dehors de notre sphère de
mais
pensée.
Mais en même temps, on le vivait. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours vécu un peu sur ce modèle. Ça me semble bizarre d'en faire tout un plat, parce que ça tombe sous le sens, le pluriamour. Simplement, on ne le nommait pas, mais ça se faisait. On aimait plusieurs personnes à la fois. Et on condamnait la jalousie. Enfin, moi, dans les sphères dans lesquelles j'évoluais, c'était comme ça.
Pour réinventer l'amour, peut-être faut-il aller au-delà de l'abolition du patriarcat et faire entrer dans l'équation l'abolition de la société marchande. C'est en tout cas la théorie de Kristen Godsen, pour qui le capitalisme enferme les femmes dans une dépendance économique aux hommes qui nuit à leurs relations intimes. Elle reprend la théorie de Marx et Engels, pour qui le capitalisme marchandise toutes les interactions humaines et réduit les femmes à des biens meubles. Peut-être qu'une société plus égalitaire, où les individus vivraient et travailleraient ensemble comme des égaux, pourrait ouvrir la voie à des relations d'un type nouveau, fondées sur l'amour et l'affection mutuelle, et non plus entachées par des questions de valeur, de prix et d'échange.
Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un de droite quand on est de gauche?
Tancrède Ramonet.
Est-ce que ça t'est arrivé?
Oui, c'est compliqué. Évidemment que c'est compliqué, bien sûr. On a parlé dans la série, on a parlé d'homogamie, de la rencontre, du fait qu'on se rencontrait entre nous, entre même catégories sociales, entre même religions et tout ça, mais aussi entre même convictions politiques. En général, on se rencontre, c'est souvent ça qui nous unit d'ailleurs, c'est nos convictions politiques communes. Moi, ça m'est arrivé une fois d'être avec quelqu'un et je n'ai eu de cesse que de vouloir le convertir à tout prix. Tu vois, et ça a créé quelque chose d'inégalitaire dans le couple. Donc oui, bien sûr qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un de droite quand on est de gauche, c'est juste que c'est compliqué. C'est comme quand t'es pas de la même religion, ou c'est pas impossible, mais c'est absolument compliqué.
Moi, je peux faire des grandes choses avec mon cul, tu sais. Mais regarde, quand tu discutes avec quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, on n'arrive jamais à le convaincre. On y arrive beaucoup mieux par le sexe, je te promets. Regarde lui, par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais. T'imagines ? Comment on peut être jeune et UMP ? Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord. C'est pas génial ? T'as vu ? Lui, c'était un vieux boursicoteur de merde. Et ben maintenant, il fait des crêpes sarrasins. Lui, il était président d'un club de quad. Maintenant, il fait de la capoeira. Bon, tu vois, évidemment, le temps de conversion, il varie selon le degré de connerie du gars. Pour un mec du FN, il me faut bien au moins 10 jours. Alors que pour un fan de Bayrou, en une après-midi, c'est plié.
Est-ce qu'on peut érotiser l'égalité ?
Nos fantasmes, nos désirs sont un des endroits les plus inatteignables du patriarcat, un des endroits les plus profonds du patriarcat. Et que donc, s'efforcer de changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde, pour le coup, c'est une mauvaise idée. Je pense que nos désirs changent et changeront à mesure que l'ordre du monde changera. Ce truc de se dire « il faudrait plus avoir de fantasmes liés au pouvoir dans le sexe, etc. » Comment ce serait possible ? Je veux dire, le sexe, c'est une sorte de précipité des vies sociales que l'on a. Or, les vies sociales que l'on a, elles sont éminemment politiques. Elles sont éminemment traversées par des rapports de pouvoir. Elles sont éminemment fondées sur la domination, etc. Donc, oui, il faut érotiser l'égalité, mais je pense que pour érotiser l'égalité, il faut rendre la société plus égale, d'abord. Plutôt que de dire aux filles, n'ayez pas envie de vous faire tirer les cheveux. Bon, la belle affaire, quoi.
Ma révolution porte ton nom. Ma révolution n'a qu'une seule façon de tourner le monde, de le changer. Pour toi, je ne cesserai jamais de marcher. Ma révolution porte ton nom.
Je sais que pour toi, l'amour, ça naît avec le capitalisme. Mais est-ce que finalement, l'amour, le vrai, libre, émancipé, il ne peut pas se vivre qu'en dehors du capitalisme. Est-ce qu'on peut encore espérer s'aimer sous le capitalisme ?
Je crois que l'amour, ça va aussi avec un sentiment de possession de l'autre, du corps et de l'esprit de l'autre. Eh bien, en réalité, j'ai l'impression qu'on arrivera à s'en débarrasser qu'en même temps, enfin, en faisant un travail aujourd'hui, évidemment, mais qu'en même temps qu'on arrivera à se débarrasser de nos autres désirs d'appropriation. Impérialiste, besoin de s'approprier les autres pays, besoin de s'approprier les richesses, etc. Et je crois que c'est l'amour révolutionnaire marche avec un processus révolutionnaire.
La méthode vachement marxiste de dire à toutes les féministes « Oh là là, vous parlez des femmes, mais vous parlez pas de la classe sociale », ce truc de toujours demander aux femmes de s'occuper d'autres trucs que... Ça me paraît être une mauvaise méthode.
Mais c'est vrai qu'on entend cette petite musique depuis longtemps, tous ces questionnements autour de l'intime, de l'amour, des questions de sexualité, des questions de rapport au corps, que ce sont des sous-luttes. C'est quelque chose qu'on a longtemps entendu, et même on a longtemps entendu que le féminisme, c'était une sous-lutte, en fin de compte. Parce que finalement, la lutte première, c'était la lutte contre le capitalisme, et puis le reste, c'était un petit peu des histoires de bonnes femmes. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Comment réussir à ne tomber dans aucun des deux écueils, c'est compliqué.
Pourquoi on demande toujours aux femmes, pourquoi on dit toujours aux femmes que leur oppression compte moins que les autres, quoi ? C'est intéressant et moi j'essaye de pas tomber dans ce travers-là quand je veux dire que c'est difficile de réinventer l'amour dans les conditions actuelles de la société. Mais je crois que c'est aux hommes de bouger là. Nous, on a fait toutes les gymnastiques possibles et imaginables, étant donné la société. Maintenant, si les hommes acceptent un peu de bouger, la société bougera sans doute un peu aussi.
J'aime en regarder les filles qui marchent sur la plage. Sur le...
On ne va pas non plus attendre la fin du capitalisme et la fin du patriarcat pour essayer de changer des choses dans nos comportements amoureux. On peut déjà les changer aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans quelle mesure la question de changer des choses dans nos comportements amoureux aujourd'hui, qui vont parfois être le fruit de nouvelles naissances, ne va pas contribuer à donner à nos enfants une autre image de l'amour, mais aussi des rapports entre les personnes, de telle sorte qu'eux-mêmes feront évoluer encore la société, etc. Enfin, si on doit attendre le communisme pour avoir des amours révolutionnaires, déjà, j'ai bien peur que nous ne connaissions jamais ça. Et ensuite, je ne sais pas quel communisme ce sera s'il est fait par des gens qui sont sexistes, paternalistes, toxiques dans leur masculinité ou Donc non, le travail, il commence dès maintenant, dès aujourd'hui, à essayer d'imaginer de nouvelles manières d'être ensemble, de frustrer aussi certaines de ses émotions et de se raisonner, même quand des sentiments sont très forts. Dans des relations à deux, parfois à trois, à quatre, on peut imaginer de nouvelles manières de procéder dès maintenant, ça on n'a pas besoin d'attendre. Donc ce sera sans doute impur, imparfait, ça l'est d'ailleurs déjà, impur ou imparfait. Mais on avance vers ça, on se pose les questions, on essaie de le vivre, quoi.
C'était « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Révolutionner l'amour. Avec Manon Garcia, Mathilde Ramadier, Christelle Tarot et Anne Steiner. Documentation Radio France, Antoine Vuillose. Prise de son, Thibaut Nassim Bell, Mathieu Tourin, Lucien Lefebvre, Guillaume Ledu, Alexandre Bucquois et Claire Levasseur. Mixage, Manuel Couturier. Attaché de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Bérécy.
Il était une fois une princesse qui devint amoureuse.
France Culture invite la féministe, réalisatrice et autrice Ovidie à déconstruire les codes amoureux. Pour LSD, la série documentaire, épaulée par son acolyte Tancrède Ramonet, elle tente de définir les multiples représentations romantiques qui envahissent notre époque.
Je me suis rendu compte que les hommes qui me plaisaient, c'était tous issus de la classe bourgeoise. Et je me suis dit, merde!
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Un podcast d'Ovidie, réalisé par Julie Bérécy sur franceculture.fr et l'appli Radio France.